Marcher comme des enfants de lumière. La semaine dernière, j'étais assis dans le bureau de l'église, et l'une des ampoules bourdonnait et clignotait. Je me suis levé, et je l'ai dévissée, parce qu'elle était très dérangeante. Mais ensuite, j'ai regardé autour de moi, et j'ai réalisé qu'il y avait 28 ampoules à remplacer. J'ai donc commandé des ampoules, et j'ai commencé à les changer. Et une fois qu'elles ont toutes été remplacées, j'ai remarqué deux choses. Premièrement, à quel point le bureau de l'église était maintenant lumineux. Deuxièmement, à quel point il était sombre avant de remplacer les ampoules. La zone près de mon bureau était particulièrement sombre. Mais une fois les nouvelles lumières installées, non seulement je pouvais voir davantage, mais j'ai aussi remarqué qu'il y avait certains endroits à nettoyer. Quand il faisait sombre, je ne les remarquais pas. Mais la lumière les a révélés. Nous avons étudié le livre des Éphésiens. Dans le chapitre 5, que nous allons examiner ce matin, Paul parle beaucoup des ténèbres et de la lumière. Jésus aussi parlait beaucoup des ténèbres et de la lumière. Et la question pour vous ce matin est, marchez-vous dans la lumière ou marchez-vous dans les ténèbres? Êtes-vous resté si longtemps assis dans l'obscurité que vous ne l'avez même pas remarqué? C'est ce que nous voulons examiner ce matin. Alors si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à Éphésiens chapitre 5. Au chapitre 4, Paul a parlé de la manière dont nous devons marcher et vivre en tant que chrétiens. Il continue au chapitre 5. 5:1. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Les enfants ont tendance à ressembler à leurs parents, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Les enfants imitent le comportement de leurs parents. Ils suivent leur exemple. Paul dit, « Vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, il est votre Père céleste, alors soyez comme lui. Marchez dans ses voies. Soyez saints, comme il est saint. » Paul va nous dire comment faire cela dans la suite du chapitre 5. 5:2. Et marchez dans l'amour, comme Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même pour nous, en offrande et en sacrifice de bonne odeur à Dieu. Paul continue de comparer la vie chrétienne à la marche. Il s'agit de la vie quotidienne. Suivre Jésus est un parcours. Nous avançons sans cesse. Et ici, Paul nous dit de marcher dans l'amour en suivant l'exemple de Jésus, qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Nous marchons dans l'amour à cause de l'Évangile. Car alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Une offrande d'agréable odeur nous rappelle les sacrifices pour le péché dans l'Ancien Testament. Les holocaustes, les offrandes de grains et les sacrifices d'action de grâce des chapitres 1 à 3 du Lévitique. Mais nous n'offrons plus de sacrifices d'animaux. Nous n'offrons plus d'offrandes de grains ou de paix, parce que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Il a été le sacrifice acceptable pour nos péchés. Son sacrifice a satisfait et plu à Dieu. Et grâce à la croix, vous pouvez être pardonné et rendu pur en plaçant votre confiance en Jésus. Et c'est son exemple que vous devez suivre. Marchez dans l'amour, comme votre Sauveur vous a aimé et s'est livré pour vous. Mais que l'impudicité, toute impureté ou la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, comme cela convient à des saints. Paul commence une liste de choses à éviter, des choses liées aux ténèbres. Il commence par l'immoralité sexuelle et l'impureté, qui sont étroitement liées. Il mentionne aussi la cupidité, c'est-à-dire le désir de posséder ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Paul peut parler de la convoitise en général, ou de la convoitise liée à l'immoralité sexuelle. Dans tous les cas, il dit que ces péchés ne devraient pas apparaître dans l'Église. Ce n'est pas convenable pour les saints, c'est-à-dire les croyants. L'immoralité sexuelle dans la Bible fait référence à toute activité sexuelle en dehors de la relation entre un mari et sa femme. Dieu a conçu la sexualité pour être appréciée dans le cadre de l'alliance du mariage entre un mari et une femme. La sexualité n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Mais Dieu a toujours voulu qu'elle soit vécue avec joie dans le mariage. Tout ce qui sort de ce cadre relève de l'immoralité sexuelle. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes ici à l'Église. Tout le monde peut être confronté à l'immoralité sexuelle, mais nous savons que pour les jeunes, la tentation peut être très forte. Je veux vraiment vous aider dans vos combats. Il est bien de rester général et de dire « éviter l'immoralité sexuelle », mais je pense qu'il est utile d'être plus précis. Alors, j'ai fait une liste de 10 choses pour vous aider à lutter contre les tentations sexuelles. Ce ne sont pas les 10 commandements. Même si je les lis à partir d'une tablette, je vais les appeler « les 10 astuces de Clint pour éviter l'immoralité sexuelle ». Maintenant, avant de les lire, laissez-moi vous dire que ces choses n'auront aucun sens pour quelqu'un qui n'essaie pas de plaire à Dieu. Si vous ne vous souciez pas de glorifier Dieu avec votre corps, alors cette liste ne vous parlera pas. Mais si vous souhaitez sincèrement plaire au Seigneur, voici 10 conseils pour vous aider à combattre la tentation sexuelle. 1. Les langues, c'est pour la glace. Maintenant, vous écoutez. Je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup ici, car je pense que vous comprenez mon point. Nous ne sommes pas en France, et même si nous étions en France, cela ne veut pas dire que nous devrions adopter la culture. Regardez, certaines personnes ne croient pas qu'il faille s'embrasser pendant les fréquentations. D'autres le font. Chacun devrait suivre la direction du Saint-Esprit. Mais faire intervenir votre langue n'apaise pas la situation. Au contraire, ça l'enflamme. Lorsque la Bible dit qu'aucun homme ne peut dompter la langue, elle parle de vos paroles, pas de la romance. Gardez votre langue dans votre bouche. Encore mieux, achetez une glace. Cela rafraîchira votre langue. Beaucoup de ces 10 astuces concernent l'établissement de limites claires. Si vous n'avez pas de limites précises, vous pouvez facilement vous retrouver dans des situations difficiles à quitter. Des limites vagues mènent à la tentation. Des limites claires mènent à la victoire sur la tentation. En parlant de limites, 2. Dieu ne fait pas de failles. Une faille est une petite erreur dans un accord ou une loi qui donne à quelqu'un la possibilité d'éviter de faire quelque chose. C'est comme trouver une erreur et en profiter. Comme vous le savez, il n'y a pas de shopping le dimanche en Pologne. Les magasins sont fermés. Mais il y a quelques mois, j'ai remarqué que Eurospar, l'épicerie sur One, a commencé à être ouverte le dimanche. Elle est ouverte aujourd'hui. Eh bien, ils ont trouvé une faille dans la loi. La loi dit qu'une salle de lecture peut être ouverte le dimanche. L'idée serait comme un centre culturel où les gens pourraient se réunir un dimanche et lire paisiblement. Alors, qu'a fait Eurospar lorsqu'ils ont appris l'existence de cette loi? Regardez la photo. Ils ont mis quelques livres et une chaise pour que les gens puissent venir lire. Et où ont-ils installé l'espace de lecture? Près des congélateurs. Je vois beaucoup de nos étudiants à la bibliothèque, tout au long de la semaine, en train d'étudier. Maintenant, est-ce que l'un d'entre vous penserait aller au supermarché, s'asseoir à côté des congélateurs et lire, alors que tout le monde marche autour de vous et vous bouscule? Bien sûr que non. L'espace de lecture n'est qu'un moyen de contourner la loi afin de pouvoir ouvrir le dimanche. C'est une faille. Quel rapport avec l'immoralité sexuelle? Peut-être que vous vous dites, « Eh bien, techniquement, mon partenaire et moi n'avons pas de relation sexuelle. Nous faisons tout le reste, mais puisque nous n'accomplissons pas l'acte, cela veut dire que nous sommes en règle. » Allons, voyons. Pensez-vous pouvoir tromper Dieu avec une faille? Dieu ne fait pas de faille. Il ne regarde pas vers le bas pour voir des détails techniques. Il regarde vers le bas, et voit votre cœur. Rappelez-vous la définition. L'immoralité sexuelle dans la Bible fait référence à toute activité sexuelle en dehors de la relation mari et femme. Toute activité sexuelle. En d'autres termes, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous pouvez essayer de vous tromper vous-même, mais vous ne pouvez pas le tromper. Vous pouvez essayer de justifier vos actions, mais Dieu est le véritable juge. Ne cherchez pas des failles. Tournez-vous vers le Seigneur. 3. Ne dites rien. Ne vous déshabillez pas. Ne déboutonnez rien. Ne dézippez rien. Ne décrochez rien. Peut-être que vous et votre partenaire avez prié pour être protégés contre la tentation. Eh bien, laissez-moi vous dire que le Seigneur vous a déjà donné une protection. Le Seigneur vous a déjà donné une couverture. Il vous a donné cette chemise. Il vous a donné ce pantalon. Il vous a donné ce pull. Cela ne vous garde pas seulement au chaud, mais cela vous couvre aussi. Ne priez pas pour demander de la protection et commencez ensuite à déboutonner ou à dézipper quelque chose. Pensez-vous que cela va rendre les choses plus faciles à arrêter? Permettez-moi d'ajouter un autre « D ». Ne mettez pas vos mains sous les vêtements de l'autre personne. Cela ne mène à rien de bon. Vous n'êtes pas la police. Vous n'avez pas besoin de fouiller quelqu'un ou de vérifier s'il porte des armes. Ne dites rien. Encore mieux, ajoutez quelques couches de protection supplémentaires lors d'un rendez-vous. Portez une chemise, un pull et une veste. 4. Rien de bon n'arrive après 10 heures du soir. Plus la journée avance, plus il devient facile de céder à la tentation. Peut-être avez-vous eu une longue journée au travail ou à l'école, et plus vous êtes fatigué, plus il devient facile de tomber dans le péché. C'est naturel. Quand nous sommes fatigués, nos défenses baissent un peu. Ce n'est donc pas une surprise si, lorsque vous traînez avec votre copain ou votre copine, à minuit ou à 2 heures du matin, qu'il fait noir, la tentation commence à venir. Si vous êtes déjà dans cette situation, il est probablement trop tard. Alors ne vous mettez pas dans cette situation. Ce n'est pas parce qu'il fait sombre que Dieu ne peut pas vous voir. Soyez dans la lumière. Je connais certains gars dans l'église qui prennent le service du matin juste pour pouvoir se coucher plus tôt le soir. Parce qu'ils savent que plus ils veillent tard, plus les tentations seront nombreuses. C'est de la sagesse. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Alors soyez réveillés le matin pour les accueillir. 5. N'oubliez pas votre épée. Éphésiens 6 fait référence à la Bible comme étant l'épée lorsqu'il s'agit du combat spirituel. Quand Jésus a été tenté dans le désert par Satan, avec quoi a-t-il riposté? La parole de Dieu, l'épée. Si vous êtes constamment tenté par les mêmes choses, mémorisez des versets bibliques qui parlent de ces sujets. Je ne parle pas seulement de tentation sexuelle, mais de toute tentation. Si vous luttez contre l'orgueil, mémorisez des versets bibliques sur l'humilité. Si vous avez du mal avec la valeur de soi, mémorisez des passages sur votre identité en Christ. Si vous luttez contre la peur, apprenez par cœur des versets sur la foi. Si quelqu'un se présente au combat sans armes, il va probablement perdre. N'oubliez pas votre épée. Nous ne vivons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne venez pas au combat les mains vides. Soyez forts dans la parole de Dieu. Jésus nous a déjà montré le chemin vers la victoire dans la bataille. 6. Soyez redevables. Nous avons parlé de cela hier lors de la réunion des hommes. N'oubliez pas votre épée lors du combat et n'y allez pas seul. Oui, Jésus est avec vous, mais nous avons besoin les uns des autres. Frère, avez-vous un autre frère vers qui vous pouvez aller lorsque vous vous sentez tenté pour la prière et la responsabilité? Sœur, avez-vous une autre sœur à qui vous pouvez parler en toute franchise de vos luttes et faiblesses et qui priera pour vous? Vous n'avez pas besoin d'être redevable à 10 personnes. mais vous devriez l'être à au moins une. Le fer aiguise le fer. Un mardi sur deux à 3h30, j'ai un appel téléphonique avec l'un de mes meilleurs amis. Nous faisons cet appel depuis de nombreuses années. C'est un moment où nous parlons de nos vies, de nos familles et de nos ministères. C'est aussi un moment pour confesser nos péchés, pour nous poser des questions difficiles et pour prier l'un pour l'autre. Je connais ses faiblesses, il connaît les miennes et nous sommes là l'un pour l'autre. Oui, je dis tout à ma femme aussi, mais mon ami connaît les tentations et les responsabilités qui accompagnent le fait d'être un homme. Donc nous nous comprenons à un niveau que ma femme et moi ne pouvons tout simplement pas atteindre. À qui rends-tu des comptes? Si tu n'as pas de nom, pense à la personne en qui tu as le plus confiance dans ta vie et commence là. Sois redevable. Ne te mets pas à l'horizontale, je suis fatigué. J'ai besoin de m'étirer. J'ai mal au dos, je dois m'allonger. Mesdames, ne tombez pas dans le piège quand il dit ces choses. Il est peut-être fatigué. Il a peut-être besoin de s'étirer. Son dos lui fait peut-être mal. Mais s'il a vraiment aussi mal, il peut rentrer chez lui et aller dans son propre lit. Se coucher ensemble, c'est s'exposer à la tentation. Surtout si vous êtes allongé sous une couverture. Et j'ajouterai à cela, ne dormez pas dans la même chambre si vous partez ensemble. Oui, je sais que c'est peut-être plus pratique. Oui, je sais que cela peut vous faire économiser de l'argent. Mais voulez-vous économiser de l'argent ou être sain? Si c'est juste une question d'argent, payez votre propre chambre et envoyez-moi le reçu. Je m'occupe de vous. Soyez comme Joseph. Quand la femme de Potiphar a essayé de se coucher avec lui, il s'est enfui. Ne vous couchez pas ensemble et ne dormez pas ensemble. Au lieu de cela, 8, mettez-vous debout. Autrement dit, priez. Persévérez dans la prière. Priez sans cesse. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. Seigneur, ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-moi du mal. Résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Écoute, je sais que la bataille est difficile. Soyons honnêtes, c'est difficile. Mais écoute-moi bien, cela peut être difficile, mais ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Il ne te donnerait pas un commandement sans te donner la force d'obéir. Continue de prier, continue de faire confiance, continue de croire. 9. Fais attention à ce que tu regardes. Qu'est-ce que tu regardes pendant la semaine? Ce point concerne tout le monde. Peu importe si tu es célibataire, en couple, marié ou divorcé. Qu'est-ce que tes yeux voient régulièrement? Quel genre de contenu apparaît dans tes fils sur les réseaux sociaux? On appelle cela un fil parce que tu le consommes. Jésus a élevé les exigences lorsqu'il a dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » La convoitise est un désir fort et une envie intense de quelque chose. Désirer ardemment son conjoint est une bonne chose. C'est un désir sain et selon Dieu. Mais convoiter quelqu'un qui n'est pas ton conjoint, c'est là que cela devient un péché. Que tu connaisses cette personne ou que cette personne se trouve sur un écran. Les statistiques concernant la pornographie sont bien connues. C'est quelque chose comme 60% des adultes qui regardent une forme de pornographie. Et les statistiques dans l'Église ne sont pas beaucoup meilleures. Selon Jésus, la convoitise n'est pas un problème nouveau. C'était un problème il y a 2000 ans, et c'en était déjà un avant cela. La convoitise n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau à mon avis, c'est la facilité avec laquelle on peut trouver de la pornographie. Tu peux en trouver sur ton téléphone en 2 secondes. Et parfois tu n'as même pas besoin d'en chercher. C'est elle qui te trouve. La pornographie affecte les relations. Elle conduit à des attentes irréalistes. Elle détruit les mariages et les familles. Elle mène à la dépression et à la solitude, ce qui conduit à l'isolement, pouvant à son tour ramener une personne vers la pornographie. Et alors le cycle se répète sans cesse. La plupart des personnes à qui je parle et qui luttent avec la pornographie la détestent. Elles ne l'aiment pas. Elles ne veulent pas la regarder. Si tu as des difficultés avec ce que tu regardes, je veux t'encourager ce matin en te rappelant qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ. C'est par lui que nous pouvons tout faire, y compris remporter la victoire sur le péché. D'abord, il faut admettre qu'il y a un problème. Ensuite, il faut confesser ce péché au Seigneur et à une autre personne. Les ténèbres perdent leur pouvoir quand nous les mettons à la lumière. Je serai heureux de te rencontrer et d'en parler avec toi. Il existe aussi des logiciels qui aident à bloquer les sites inappropriés, mais qui apportent aussi un vrai soutien grâce à la redevabilité avec des personnes de confiance. J'en ai installé sur mon téléphone, mon ordinateur portable et ma tablette, et c'est un excellent outil. Maintenant, toutes ces étapes peuvent se produire assez rapidement. Mais il y a un élément dans tout cela qui n'est pas aussi rapide. Et c'est le travail dans ton cœur. Que se passe-t-il dans ton cœur qui te pousse à t'échapper vers de telles choses, sachant que cela ne satisfera jamais? Quelles blessures ou brisures y a-t-il qui doivent être guéries? Au final, tout se joue dans ton cœur. Et c'est une bonne chose que nous servions un Dieu qui peut guérir nos cœurs. Ce qui m'amène à ma dernière suggestion, conseil ou commandement. 10. Ne jamais abandonner. Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve. Et ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne relâchons pas. Il y a de l'espoir. Continue à livrer le bon combat de la foi. Chaque fois que je suis avec mes filles et que nous faisons du vélo ensemble, si l'une d'elles tombe, je m'arrête toujours, je me penche et je leur pose la même question. Que faisons-nous quand nous tombons? Et maintenant, elles connaissent la réponse. Nous nous relevons et nous continuons. Si tu échoues aujourd'hui, relève-toi et bats-toi à nouveau demain. Si tu échoues demain, relève-toi et bats-toi encore le jour suivant. N'abandonne pas. Le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut te donner la victoire sur la convoitise et la tentation. C'est possible. Les chaînes peuvent être brisées. La Bible dit qu'en Christ, tu es une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Loué soit Dieu. Tout est devenu nouveau. Tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Christ Jésus pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Alors débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit et du péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance la course qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Voilà mes 10. J'aurais pu en faire plus, mais 10 est un beau chiffre rond. Évite l'immoralité sexuelle, l'impureté et la convoitise. Amen. Ne laissez aucun propos malsain, aucune parole insensée ou plaisanterie grossière qui ne convienne pas. J'aime plaisanter, j'aime rire, mais nous voyons ici qu'il y a certaines choses que le Seigneur ne trouve pas drôles. Le genre de plaisanterie et de propos insensés dont il est question ici fait référence à un langage vulgaire. Plaisanter à propos du sexe, ou parler de quelqu'un de manière dégradante en se basant sur son apparence. C'est le genre de parole que l'on peut entendre dans un vestiaire de salle de sport. Alors les gars, j'étais avec ma copine l'autre soir. Les filles, vous auriez dû voir ce type qui a essayé de me parler l'autre soir. Et ensuite, il continue à plaisanter sur l'autre personne de manière méchante et cruelle. et les autres dans le vestiaire rient avec eux. Paul dit que ce genre de plaisanterie n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Paul ne dit pas qu'il ne doit pas y avoir de plaisanterie dans le royaume. Après tout, l'Ecclésiaste chapitre 3 dit qu'il y a un temps pour rire. Rire est sain, une plaisanterie propre est bonne. Mais les plaisanteries grossières, les plaisanteries malsaines, rire des choses que Dieu déteste, n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Ces plaisanteries peuvent provoquer des rires dans le vestiaire, mais elles ne devraient pas en provoquer ici. Au lieu de cela, Paul dit, « Soyez reconnaissants. Que de bonnes paroles sortent de votre bouche, des paroles qui édifient et des paroles qui bénissent. Car, sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » C'est l'un des versets qui vous fait vous redresser sur votre chaise. Paul dit que quiconque est débauché ou idolâtre n'a pas d'héritage dans le royaume. Éphésiens, chapitre 1, parlait entièrement de notre héritage en Christ. Le dépôt du Saint-Esprit, garantissant notre héritage, les glorieuses richesses spirituelles que nous héritons en tant qu'enfants de Dieu. Mais Paul dit que tous ceux qui sont débauchés ou qui ont des idoles, ils n'héritent de rien. Parfois dans les films, un parent meurt et les enfants se rendent au bureau de l'avocat pour entendre la lecture du testament. Ils veulent savoir ce que le parent leur a laissé en héritage. Peut-être une maison ou de l'argent. Mais au fur et à mesure que le testament est lu, les enfants commencent à réaliser que leurs parents ne leur ont rien laissé et qu'ils n'ont aucun héritage. Ils commencent alors à se fâcher, à être bouleversés et à crier « Je méritais d'avoir quelque chose ». Paul ne veut pas qu'il y ait de surprise. Il lit le testament pendant que tout le monde est vivant. Il dit qu'il n'y a pas d'héritage pour les personnes sexuellement immorales ou cupides. Laissez-moi dire qu'il y a une différence entre tomber dans le péché et persévérer dans le péché. Le croyant qui tombe dans le péché, mais qui est repentant et honnête devant le Seigneur, comme le roi David par exemple, lorsqu'il a couché avec Bathsheba, trouve le pardon et la restauration en Christ. Mais la personne qui persévère dans ses péchés, qui n'est pas repentante, qui n'a pas de honte, en somme la personne qui fait ces choses et s'en moque, quelle preuve avons-nous que cette personne est croyante? Paul dit qu'il n'y en a aucune. Alors pour vous qui essayez ici de suivre le Christ dans ces domaines, mais qui tombez parfois et cherchez le Seigneur dans la repentance et la foi, permettez-moi de vous rassurer, de vous donner de l'assurance. Le fait que vous soyez convaincu de votre péché est la preuve que vous avez le Saint-Esprit et que vous répondez à la conviction du Saint-Esprit. Permettez-moi de vous assurer, votre héritage est en sécurité. Continuez de livrer le bon combat de la foi. Mais si vous êtes ici et que vous persévérez dans ces péchés, si vous vivez dans ces péchés et que cela vous est égal, si vous ne ressentez aucune conviction, si cela ne vous dérange pas, je ne veux vous donner aucune assurance. Au contraire, laissez-moi vous avertir. Ce verset dit qu'aucun héritage ne vous attend. Il semblerait que vous n'ayez pas encore le Saint-Esprit. Mon message pour vous ce matin est, vous avez besoin de Jésus. Repentez-vous et croyez en Jésus-Christ. Quittez les ténèbres et venez à la lumière. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ceci est en rapport avec le verset précédent. Il y avait de faux enseignements dans l'Église, selon lesquels la manière dont les croyants vivaient n'avait pas d'importance. Peu importait combien de péchés étaient présents dans leur vie, ils pouvaient tout de même entrer dans le royaume de Dieu. L'enseignement était « Péchez autant que vous le voulez, car la grâce de Dieu pardonnera tout ». Paul aborde ce sujet dans Romains 6, versets 1 à 2. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce abonde? Certainement pas. Nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? La grâce de Dieu n'est pas comme un interrupteur que l'on peut simplement allumer ou éteindre. C'est une vision bon marché de la grâce. Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer a développé cette idée de la grâce à bon marché contre la grâce coûteuse. Bonhoeffer a dit que la grâce à bon marché est l'ennemi mortel de notre Église. C'est une grâce sans prix ni coût. En d'autres termes, la grâce à bon marché regarde la croix et pense « Où est le problème? Pourquoi tout ce discours sur le péché et le jugement ?» Du calme. La grâce à bon marché regarde le péché et dit « Peu importe. » Mais c'est pour cela qu'on l'appelle la grâce à bon marché, parce qu'elle dévalorise ou minimise la croix et elle diminue notre vie. L'opposé serait la grâce coûteuse, c'est comprendre le poids de notre péché et la sainteté de Dieu. La grâce coûteuse comprend à quel point le péché est une offense à Dieu, à quel point Dieu ne peut rien avoir à faire avec lui. La grâce coûteuse comprend aussi que notre péché a coûté la vie même de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est 100% gratuite pour nous. C'est un don, comme nous l'avons lu au chapitre 2. Mais il y a eu un coût. Cela a coûté la vie de son Fils. Et cela devrait nous rendre sobres. Cela devrait briser nos cœurs. Cela devrait conduire à une profonde repentance. Cela devrait nous pousser à réfléchir lorsque la tentation se présente. Nous devrions comprendre deux choses en même temps. Que c'est mon péché qui l'a conduit à la croix. Mais aussi comprendre que la grâce de Dieu me suffit. Ne vous y trompez pas. La colère de Dieu vient. Pour la personne qui comprend la grâce coûteuse de Dieu, il n'y a rien à craindre. Mais si vous avez une vision bon marché de la grâce, si le péché ne vous dérange pas, prenez ceci comme un avertissement. Je vous exhorte à vous repentir de vos péchés. Car, comme Paul l'a dit, comment pourrions-nous, nous qui sommes morts au péché, vivre encore dans le péché? 7. Ne devenez donc pas leur partenaire. 8. Car autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. 10. Et discernez ce qui est agréable au Seigneur. Paul ne dit pas que vous devez couper tout contact avec les non-croyants. Si cela était vrai, comment pourrions-nous partager l'espérance du Christ avec eux? Non, il dit de ne pas être leur partenaire. Ne soyez pas leur partenaire dans leurs manières et leurs habitudes. Ne soyez pas leur partenaire dans les ténèbres. Marchez dans la lumière. Vous êtes des enfants de lumière. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il y a deux chemins, le chemin de la lumière et le chemin des ténèbres. Marcher dans les ténèbres mène à l'isolement et au mal. Marcher dans la lumière mène à la communauté et à la bonté. Marcher dans la lumière signifie que nous reflétons la bonté et le caractère de Dieu. Nous obéissons à ses commandements. Nos vies sont ouvertes. Le verset 9 dit que nous portons de bons fruits. Marcher dans les ténèbres, c'est le contraire. Marcher dans les ténèbres mène à cacher des choses, à avoir des secrets, à mentir, au péché. Paul dit que marcher dans les ténèbres, c'était l'ancienne manière de vivre, avant de connaître Jésus. Alors ne retournez pas dans les ténèbres. 11. Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt démasquez-les. 12. Car il est honteux même de mentionner ce qu'ils font en secret. 13. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière devient visible. 14. Car tout ce qui devient visible est lumière. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Le célèbre évangéliste Billy Graham jouait un jour au golf avec un non-croyant. Après avoir terminé, un ami demanda au non-croyant ce que cela faisait de jouer au golf avec Billy Graham. Il répondit, « C'était terrible. Il n'arrêtait pas d'imposer ses croyances. » L'ami lui demanda, « Mais qu'a dit Billy Graham ?» Le non-croyant y réfléchit et répondit, « Eh bien, en fait, Billy Graham n'a rien dit au sujet de Jésus ou de la religion. J'ai juste eu l'impression qu'il en avait envie. » Billy Graham n'a rien dit. Mais l'incroyant s'est senti démasqué simplement en passant du temps avec lui. Jésus a dit, « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et donnent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Ne cachez pas votre lumière sous un boisseau, mais placez-la sur un support. La lumière met les ténèbres en évidence. » 15. Faites donc bien attention à la façon dont vous marchez, non comme des insensés, mais comme des sages. 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 17. C'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Marchez avec sagesse, dit Paul. Faites attention à la manière dont vous marchez. Faites attention à la manière dont vous vivez. Ne gaspillez pas votre vie, mais employez votre temps avec sagesse. Car, dit Paul, les jours sont mauvais. Quand Paul dit que les jours sont mauvais, il ne veut pas dire que le temps lui-même est mauvais. Il veut dire que nous vivons encore dans un monde pécheur et brisé. Il y a encore beaucoup de ténèbres dans le monde aujourd'hui. Alors, ne soyez pas insensés, ne marchez pas sans sagesse, et ne perdez pas votre temps dans les ténèbres. Cherchez plutôt le Seigneur et sa volonté pour votre vie. Parfois, quand nous parlons de la volonté de Dieu, nous pensons aux grandes décisions majeures qui ont un impact énorme sur notre vie. Aux inconnus. Je ne pense pas que c'est de cela que Paul parle ici. Je pense qu'il parle de faire les choses que Dieu a déjà révélées concernant la manière de marcher dans la lumière. Laissez-moi revenir à ma question du début. Marchez-vous dans la lumière? Ou marchez-vous dans les ténèbres? Êtes-vous resté assis dans l'obscurité si longtemps que vous ne l'aviez même pas remarqué? Ne soyez pas partenaire avec les ténèbres. Au contraire, marchez dans la lumière, comme il est la lumière. Aujourd'hui est un bon jour pour changer ces ampoules dans votre vie. Fin du sermon.